La Torah, lorsqu'on ouvre la première page d'un Sefer Torah, on constate que la première lettre est grande. Elle est plus grande que les lettres suivantes. Elle est d'une taille supérieure. On sait bien qu'il n'y a pas de majuscule dans la Torah. Il y a des lettres qui ont normalement, en principe, une taille régulière. Cependant, la tradition nous a enseigné qu'il y a quelques lettres qui sont soit plus grandes, soit plus petites que la normale, disons. Eh bien, la première lettre du Sefer Torah est une exception puisqu'elle est grande, elle est plus grande que les autres. Cette taille intrigue. Comme pour nous dire, attention, la Torah nous impose de lire en réfléchissant, en se posant des questions. Cette grande taille, peut-être pour ceux qui ont une culture, disons, occidentale, qui ont des souvenirs sur ce qui a été enseigné dans les cours de lycée sur l'histoire des manuscrits du Moyen Âge, notamment, on sait bien qu'il existe dans les anciens ouvrages des premières lettres plus grandes que le reste du texte, qui sont décorées, colorées, avec une graphie originale. On pourrait être tenté de penser que l'on est devant un phénomène comparable. Eh bien non, pas du tout. Cette grandeur de la première lettre, c'est tout simplement une tradition qui nous enseigne qu'elle doit être ainsi. Il n'y a aucune fioriture, elle est plus grande, point. Ainsi, premier problème, la taille. Nécessité de se poser des questions face à la Torah. Deuxième réflexion que l'on peut avoir à propos de cette première lettre-là, c'est sa forme. Une lettre bête, c'est un carré fermé en bas, fermé en haut, fermé à droite, mais ouvert à gauche, comme pour nous indiquer le sens de la lecture. Car on le sait, la langue hébraïque va... Quand on écrit, on va de droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Avec cette lettre initiale commence la création et l'histoire humaine. Cette lettre est donc fermée à droite, comme pour nous suggérer l'impossibilité de lire ce qui est avant le texte, avant donc la création. Et les sages déduisent de cela qu'il est vain de s'intéresser à ce qui existait avant la création. C'est une spéculation non accessible à notre intelligence. Il faut avoir la modestie de savoir qu'il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. Et là, cette lettre bête nous l'indique clairement. Avant la création du monde, eh bien, nous n'accédons pas à cette connaissance-là. Nous constatons cependant que la fermeture n'est pas tout à fait absolue, puisque le trait inférieur dépasse un peu à droite, faisant allusion à Hachem, qui seul est antérieur au monde. Ce petit dépassement de l'être peut être, on peut comprendre un yod qui fait allusion à Hachem. Donc, avant ce mur de la création, eh bien, il y a quand même un petit quelque chose avant sur la lettre, c'est cette petite pointe qui dépasse, et c'est une allusion au fait que Hachem est antérieur à la création du monde. Si on explore encore cette lettre au niveau de la forme, on voit que sa graphie traditionnelle dessine deux pointes, une en haut à gauche, et l'autre que l'on vient d'évoquer en bas à droite. La pointe du haut répond à la question qui t'a créé, celui qui est en haut. Et la pointe du bas que l'on a évoquée tout à l'heure nous indique que, au contraire, enfin, que c'est celui qui était avant la création du monde. Nature du dessin. Ce dessin de la lettre carrée qui est sur le Sefer Torah, elle est faite de trois traits. Et le trait dans la langue hébraïque, c'est un vav. Donc on pourrait dire que cette lettre est formée de l'assemblage de trois vaves. Cela, quand on sait qu'il y a une correspondance entre les lettres et les chiffres, chaque lettre ayant une valeur selon la Torah orale, puisque, petite parenthèse, on sait que la Torah ne nous a pas été donnée uniquement par écrit, c'est elle a été donnée simultanément en écrit et en oral. C'est-à-dire que l'on a la Torah orale qui vient expliquer, commenter, éclairer, permettre de comprendre ce qui est écrit dans la Torah écrite, et cela à partir de la livraison, de la fourniture de toute une série de moyens, de méthodes qui ont été enseignés à Moshe au Sinaï, en même temps que le texte était donné, il y avait le décodage de ce texte, une sorte de boîte à outils qui permettrait alors de rentrer dans ce texte et de le comprendre véritablement, sans se laisser piéger par un sens trop littéral, qui a toute sa valeur, bien entendu, mais le sens va bien au-delà, puisqu'on sait que la Torah a de quantités de sens possibles, tous conformes, bien entendu, de même que la lumière qui sort d'un diamant peut donner des quantités d'éclats différents, mais tous provenant de la même lumière. Donc, la lettre bête est formée avec trois vavim, trois vaves. Le vave a une valeur de 6, selon la gématria. Donc, si l'on a trois vaves, 3 fois 6, cela fait 18. Voilà donc une allusion directe pour celui qui rentre dans la compréhension de la Torah, qui essaie de la lire, même simplement. Eh bien, on voit 3 fois 6, 18. 18, c'est la gématria de vave. De vie, pardon, trois vavim qui correspondent à 18, donc vie, hay. Hay, c'est un het, qui veut dire 8, et yod, qui a la valeur de 10, 8 plus 10 égale 18, donc égale vie. Eh bien, on voit que rentrer dans la Torah avec cette lettre bête qui nous invite à commencer la lecture, c'est accéder en quelque sorte à la vie. Ce bête, on peut aussi le lire d'une autre manière. On a dit trois vavim, d'accord. Mais ça peut être aussi un dalet et un vav, parce que deux traits peuvent correspondre à un dalet et deux vaves à angle droit, avec la petite pointe qui dépasse en bas à droite, c'est un dalet. Et l'autre trait qui reste, c'est un vav 6. On obtient dans ces cas-là 6 plus 4 égale 10, allusion directe à Hachem. Donc nous voyons que cette petite lettre, enfin cette grande lettre, cette lettre simple qui démarre le Sefer Torah, qui commence l'écriture du Sefer Torah, nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit que Hachem donne la vie par sa Torah. On a eu l'allusion à 10 et on a l'allusion à 18. Bête, c'est aussi la seconde lettre de l'alphabet, et donc on pourrait forcément se poser des questions. La Torah est faite pour ça, hein. Dès que l'on lit, on se pose des questions, on essaie de comprendre, et comme disait Rav Emmanuel Shushana, d'abord avec ma tête et après avec Rashi, pour essayer de comprendre. Rosh, c'est tête. Roshi avant Rashi. Donc essayer d'abord de lire et de comprendre par soi-même ce qui est écrit, comprendre le verset, essayer de faire tourner un peu ses ménages, pour dire, il y a quoi dans ce verset, ça nous explique quoi, est-ce que il y a des questions à ce propos, et après, quand on a réfléchi par soi-même, eh bien, on va chercher ce que disent les commentateurs, et en particulier le maître de Troyes, Rashi. C'est une deuxième lettre. Donc notre question vient naturellement. Deuxième, mais pourquoi n'a-t-on pas commencé par un aleph? On aurait pu commencer par un au lieu de commencer par deux, puisque bête, sa gématria, sa valeur numérique, c'est deux et non pas un. Alors que aleph, sa valeur numérique est un. La question a été posée par des commentateurs, bien entendu. Pourquoi bête et non pas aleph? Eh bien, on a quelques pistes, si vous voulez, pour essayer de comprendre ça. Tout d'abord, le mot bénédiction, beracha, commence par un bet. Et donc, la Torah est bénédiction. On ne pouvait pas commencer la Torah par une autre lettre que cette allusion à la bénédiction. Mais la lettre Aleph se trouve ne pas convenir, parce qu'elle, c'est de la lettre qui commence le mot arour, qui a pour signification malédiction. Évidemment, la Torah ne peut pas commencer par une malédiction ou par une lettre qui fait allusion à cela. Donc, le fait de commencer par le mot, par la lettre bête, est une manière de nous faire comprendre que le monde a été créé par Dieu et qu'il est source de bénédiction pour l'homme. Et la Torah, bien entendu, avec. La Torah commence par cette lettre qui fait aussi allusion à la maison, Bayit. Et Bayit, la maison, ce n'est pas qu'une affaire d'architecte, c'est au niveau sociologique, pourrait-on dire, avant tout une famille. Une famille formée au minimum par un couple et ses enfants c'est comme pour nous faire comprendre avec ce bayit qui commence que l'intelligence véritable ne se trouve qu'à l'intérieur d'un foyer qui a su se construire parfaitement, comme l'a dit par exemple Rabbi Chaim Dinovitz. Cette lettre bête porte une allusion. La véritable création du monde, c'est celle de la famille, le microcosme de l'univers qui est la cellule fondamentale de chaque existence sur Terre. Voilà donc encore une autre allusion. Bête, c'est aussi une manière de nous faire comprendre que la Torah a été livrée en deux formats, deux formules. La formule écrite, qui est le Sefer Torah, et il y a la Torah orale. Donc, ne pas penser que la Torah, il n'y a qu'une version écrite, il y a bien entendu la Torah orale qui est indispensable pour bien comprendre la Torah écrite. On pourrait bien entendu multiplier les allusions, mais telles quelles, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses dans la Torah uniquement si l'on veut quitter le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, pour essayer de voir un autre niveau du pardès. La Torah est construite, disons, la méthode traditionnelle de l'herméneutique juive, de la compréhension du sens de la Torah. Eh bien, il y a quatre niveaux, le pshat, qui est donc le sens très littéral. Il y a également le remez, les allusions, le drash, l'explication homélytique, et enfin, le sod qui relève de la Kabbalah. Si vous le voulez bien, on va poursuivre notre exploration autour de cette lettre et autour de ces quelques mots qui commencent la Torah. Bet porte une voyelle, non pas une voyelle, les grammairiens n'appellent pas le sheva voyelle, mais le sheva, c'est les deux points verticaux qui sont sous la première lettre de la Torah, sous le bet. C'est le sheva. Le sheva, les grammairiens appellent ça une semi-voyelle, qui indique la plupart très souvent, une absence de vocalisation, ou bien parfois une vocalisation. Donc le sheva est soit nar, c'est-à-dire muet, soit il s'entend. Et on l'appelle donc audible. Les grammairiens disent mobile, peu importe, disons audible. Que vient nous apprendre ce premier signe vocalique de toute la Torah, sous la toute première lettre? Eh bien, peut-être nous indique-t-il qu'il faut faire silence devant la parole du Saint béni soit-il. Silence pour mieux comprendre. En effet, trop souvent, les images vues, les paroles entendues, les phrases et les mots lus sont interprétées en fonction de la personnalité de celui qui les reçoit. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que le psychanalyste Rossard a élaboré en 1921, donc il y a un peu plus d'un siècle, le test qui porte son nom. Des taches d'encre sont montrées à des personnes. Et ces personnes-là doivent dire ce qu'elles voient. Évidemment, chacun va donner une interprétation subjective qui dépend non pas de ce qui est imprimé par ces taches d'encre, mais selon sa propre personnalité, ce qui va permettre au psychanalyste de faire son travail et d'explorer, en définitive, non pas le dessin des taches d'encre, bien sûr, mais explorer la personnalité de la personne qu'il examine. Ainsi, face à ce sheva, on apprend que ce n'est pas notre personnalité qui doit essayer de s'exprimer, mais il faut se taire pour recevoir, essayer de laisser parler le texte sans y projeter son imaginaire. Devant la Torah, d'ailleurs, il y a un mot qui est absolument mal compris. Souvent, on dit commenter la Torah. On va commenter tel paracha. C'est totalement admis. Par contre, il ne faut pas faire de faux sens. On ne commande pas une Torah en fonction de son imaginaire ou de sa culture littéraire. En fait, on transmet l'enseignement. Voyez-vous, on n'interprète pas. On n'est pas comme un artiste ou comme un lycéen qui va commenter un texte d'auteur en essayant de comprendre ce qu'il a pu y mettre dedans et il va rajouter ses propres manières, sa propre manière de comprendre. Non. Il faut essayer tout simplement de transmettre les enseignements de nos sages. Et d'ailleurs, nous avons dans Devarim ces mots, dans le cinquième livre de la Torah, ces mots, Hasket ou Shema Israël, tais-toi et entends Israël. Il faut en effet d'abord faire silence pour comprendre le sens exprimé par celui qui parle, Akadosh Baruch Hu. On est donc, avec toute dracha, avec tout commentaire de la Torah, on est dans tout le contraire d'un discours où le commentateur se met en scène et va projeter son imaginaire, sa manière brillante de comprendre les choses. La leçon ressort du sens littéral des mots que l'on vient de dire. Hasket ou Shema Israël. Regardons, tais-toi et écoute, entends bien. Et si l'on veut me regarder encore plus attentivement les mots, eh bien, dans l'écriture de ces mots, nous avons bien sûr le mot asket, donc quatre consonnes, puis le mot ushma et le mot israël, donc trois mots. Mais la Torah n'est pas seulement faite de lettres, il y a aussi des signes musicaux qui nous sont transmis selon la tradition. Or, après le asket, nous avons une barre verticale. C'est un signe musical, disons, de vocalisation, qui signifie pasek, qui veut dire que l'on doit ménager une courte pause. Donc, asket, ushmar Israël. Vous voyez, donc les mots, c'est un peu comme la ponctuation dans toutes les langues latines, par exemple, il y a une ponctuation. Enlever les points, des virgules, les points-virgules, etc., etc., et lisez n'importe quel texte, que ce soit de la poésie, de la prose, eh bien, sans mettre l'intonation imposée par la ponctuation, eh bien, le texte devient inaudible. Ce sont des mots qui ne sont pas portés par un souffle. Il en va de même de la Torah. La Torah ne peut être lue sans ses théramim, sans ses signes de vocalisation, qui, bien souvent, indiquent le sens. Et là, le sens est clair. Il faut ménager une pause. On doit bien, pour bien écouter, il faut commencer par se taire. Voilà donc quelques éléments d'information autour de ce schéma. Et si l'on veut continuer à réfléchir autour de ce tout début de la Torah, il y a ce mot Bereshit. Eh bien, une des méthodes d'interprétation consiste, c'est le tsérouf, on bouge un peu, on change la disposition des lettres et l'on lit quelque chose qui n'est pas une invention. Hein. Nous ne sommes pas en train de parler de jeux que nous ferions à partir de ces méthodes. Ce sont des résultats, en appliquant ces méthodes de la Torah orale, des résultats qui nous ont été transmis par nos sages. Donc, Bereshit correspond à, j'abrège hein, au niveau de l'écriture exactement, mais nous avons Bereshit qui correspond à craint le Shabbat, Yira Shabbat. Or, qui craint le Shabbat craint le Créateur. Ainsi, la création du monde, premier mot, la création du monde a été assortie d'une condition claire Elle ne peut se maintenir que si Israël accepte les cinq livres de la Torah. D'où on tire cela, eh ben, du mot Yom HaShishi, que l'on dit dans le Kiddush Yom HaShishi. Mais pourquoi, demanderait un grammairien, pourquoi ce Ha, cet article, jour le sixième? Mais pourquoi le dire jour sixième? C'est parfaitement compréhensible. On n'a pas besoin de le dire jour le sixième. Mais cet article, en fait, c'est un Hé, c'est un Hé qui fait allusion à Hachem. On a une sorte de signature de la création avec cette lettre-là. Voilà quelques éléments sur ce point-là. Bien entendu, il y a eu des livres entiers, des milliers de pages qui ont été écrites sur ces premiers mots de la Torah. Nous effleurons à peine le sujet avec quelques éléments que j'ajoute que les premiers mots Bereshit, Bara, Elohim. Ces premiers mots ont, comme tous les mots, une première lettre et une dernière lettre. Il n'y a pas de mots d'une seule lettre en hébreu, contrairement aux langues latines ou au français, par exemple, où on a le A accent grave. Non, en hébreu, même les prépositions se collent au mot suivant. Donc, Bereshit, Bara, Elohim, première lettre, dernière lettre. Regardons les dernières lettres. Nous avons Tav avec Bereshit, Aleph avec Bara et Mem qui termine le mot Elohim, c'est-à-dire que derrière ces tout premiers mots, ces trois premiers mots, ressort le mot vérité, Emet. Bara, c'est Aleph, hein, donc Emet s'écrit Aleph, Mem, Tav. Voilà donc les trois dernières lettres de ces trois mots. Et cela va encore plus loin, parce que cela nous indique que si à ce mot vérité, émet, on retire Dieu, on retire le Aleph, unique, c'est Hachem, Hachem Echad, donc si on retire la notion Dieu dans cette vérité, il ne reste que la mort, met. Donc on voit ici que être vrai jusqu'à la fin, c'est rester fidèle à la loi du Créateur. Pour conclure, parce que bien entendu, c'est des choses qui mériteraient d'énormes développements, mais pour conclure, je vous propose de considérer le verset dans sa totalité, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz. Eh bien, le premier mot contient six lettres. Le verset contient sept mots. Le verset contient 28 lettres. Six lettres. Cela fait allusion au nombre de jours de la création. Sept mots, cela fait allusion au nombre de jours de la semaine. 28 lettres, cela fait allusion aux 28 jours du mois lunaire du calendrier hébraïque. Et par ailleurs, on relève que dans ce verset, il y a six fois écrit la lettre Aleph. Or, Aleph, c'est une lettre, mais Eleph signifie 1000. Ainsi, ce verset de la création fait allusion à la durée impartie à ce monde, 6 millénaires. Et c'est la tradition qui nous explique que ce mot, qui nous explique que ce monde doit durer 6 millénaires. Voyez-vous, tout cela nous montre qu'il y a énormément d'allusions dans le texte de la Torah. Il y a également des méthodes qui nous permettent de comprendre bien plus que ce qui est écrit au niveau du pshat, du sens littéral. Eh bien, c'est cette démarche que nous allons essayer de suivre dans le reste de nos réunions, de nos conférences au sujet des textes de la Torah ou de la Haftarah. Merci, bonsoir.